Vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Vos questions, nos réponses. Aujourd'hui, près des deux tiers des malades d'Alzheimer vivent à domicile. Dans ce contexte, l'accompagnement de leurs proches aidants est crucial. Mobilisés au quotidien pour leurs proches malades, physiquement, mentalement, parfois même financièrement, les aidants cumulent des responsabilités personnelles et professionnelles. Un rôle qui peut donc être très éprouvant et mener à l'épuisement, un épuisement qu'il est important de pouvoir prévenir. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre ce qui l'entraîne. Qu'est-ce qui fait l'épuisement? C'est la question à laquelle on va tâcher de répondre aujourd'hui grâce à notre invitée, Maïté Fontaine, psychologue et formatrice France Alzheimer et maladies apparentées. Bonjour Madame Fontaine.
Bonjour.
Alors pour commencer, lorsqu'on parle d'épuisement, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Comment le définir?
Oui, alors lorsqu'on parle d'épuisement des aidants, on parle aussi d'épuisement professionnel, de burn-out, hein, on entend ces termes-là. On a souvent tendance à penser qu'il s'agit d'une fatigue globale. Alors en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai qu'on l'entend un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui, mais au départ, c'était vraiment spécifique aux professions soignantes, aidantes. Et aujourd'hui, donc, on l'identifie bien auprès des aidants non professionnels. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, sa particularité, c'est qu'il va toucher des personnes qui s'impliquent dans une activité où il y a un engagement relationnel affectif. Et donc, c'est parce que c'est un proche que j'aime, eh bien, inévitablement, je vais avoir des attentes, l'envie que ça se passe bien, qu'il soit bien, qu'il ne souffre pas, je vais avoir des espoirs, j'imagine que je vais réussir à tout porter, à être toujours patiente, aimante, tout ça, voilà. Sauf que la réalité va me confronter, peut-être me décourager, me démotiver, me faire sentir en échec, incompétent, là où j'avais beaucoup d'attentes. Donc cet épuisement, en fait, il va être beaucoup émotionnel, psychologique, mental et par retentissement physique aussi.
On va en parler. Alors, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire sur cet épuisement qui imbrique différentes strates. Vous distinguez émotionnel, psychologique et mental. Peut-être que pour les non-professionnels, la différence, elle n'est pas si évidente. On pourrait facilement être tenté de tout regrouper sous l'étiquette psychologique. Vous pourriez nous expliquer la différence entre les trois, psychologique, émotionnel, mental ?
Oui, alors effectivement, alors au niveau psychologique, on trouve une fatigue importante au niveau psychique, psychologique. On a un outil interne qui va réguler nos émotions et tout ce que l'on vit. Donc il a déjà tout un travail de deuil, d'acceptation de la maladie, des pertes chez notre proche à effectuer. Mais en plus, il doit faire ce travail de digestion des émotions. Vous voyez, c'est vraiment comme notre appareil digestif. Notre appareil psychique fait ce travail de digestion des émotions. Il nous aide à garder notre équilibre, à mettre à distance ce qui nous stresse, ce qui nous angoisse. Et en fait, il peut être vite débordé, ne plus y arriver. En somme, vous voyez, c'est l'épuisement de notre outil qui vise à garder notre équilibre psychologique et émotionnel. Et alors, du côté de l'émotionnel, c'est tout simplement la production de toutes nos émotions. Et là, évidemment, dans cette situation d'accompagnement, dans le temps, il y a une lourdeur des émotions qui sont très diverses, parfois en montagne russe, avec de la tristesse, de la culpabilité, il peut y avoir de l'énervement, de la colère, de l'agressivité, donc une charge émotionnelle importante. Et puis l'aspect mental, c'est vraiment tout ce qui va concerner nos pensées, notre capacité de réflexion. Ça fait référence à nos capacités cognitives, c'est-à-dire notre mémoire, notre attention, le fait de pouvoir s'organiser, de pouvoir planifier tout ce qu'on a à faire. C'est vraiment cette notion de charge mentale.
Dont on parle beaucoup.
Oui. Et je pense particulièrement là, à ceux qui sont en fragilité. Ce sont les aidants qui ont beaucoup de choses à gérer, comme par exemple, on parle souvent des femmes d'une cinquantaine d'années qui sont encore en activité professionnelle, qui ont encore des enfants à la maison et qui s'occupent de leurs parents âgés. Donc, qui se retrouvent avec trois secteurs de charge mentale importante.
En effet. Alors, on va revenir avec vous sur ces différents éléments qui caractérisent l'épuisement. Être aidant, c'est très prenant, c'est énergivore, ça demande beaucoup d'énergie au quotidien. Comment survient l'épuisement physique et quels sont les éléments qui le caractérisent? Comment ça se manifeste?
C'est vrai que l'épuisement, on pense avant tout à la fatigue physique. Donc là, elle va être liée à la charge objective, c'est-à-dire tout ce que j'ai à faire concrètement. Si ce sont mes parents, je vais avoir des trajets à faire pour aller chez eux, je vais avoir des courses à faire, tout le temps que je consacre à ces tâches que j'ai à faire en plus. Donc on peut le ressentir évidemment dans la fatigue, mais ça peut être aussi un peu travesti sous forme de douleur, d'amplification d'un problème de santé qui serait déjà présent ou qui va être lié à l'effort physique qu'on donne encore plus, comme je pense à quelqu'un qui a une tendinite qui s'est déclenchée à ce moment-là. Voilà. Et puis paradoxalement, souvent aussi on trouve des troubles du sommeil alors même qu'on est fatigué. Et ces troubles du sommeil vont, enfin, on ne va pas dormir mieux, paradoxalement, on dort encore moins bien, ce qui augmente et qui rajoute.
En tout cas, on a des manifestations qui peuvent toucher directement notre santé. Est-ce que l'épuisement émotionnel, psychologique et mental, dont on a parlé tout au début, est-ce que ces formes d'épuisement participent à l'épuisement physique ? L'un entraîne l'autre, en fait, c'est ça ?
En fait, bien sûr, parce que tout est intriqué. On ne peut pas complètement dissocier chez une personne humaine l'affectif, le mental, le physique. Hein. On sait que ça marche toujours ensemble. Donc, les charges émotionnelles et mentales peuvent générer du stress qui va jouer sur les fonctions physiologiques de base comme le sommeil, la digestion, le système immunitaire. Et fatalement, lorsqu'on est fatigué, on va aussi avoir plus de mal à gérer cette charge mentale et émotionnelle. On va aussi être plus irritable, moins patient. Donc, on peut avoir des réactions qui vont générer de la culpabilité. Enfin, voilà. On voit bien qu'il y a un cercle vicieux qui peut vite s'installer.
On a parlé de l'épuisement physique, l'épuisement psychologique maintenant. Qu'est-ce qui l'amène et surtout, est-ce que ça peut survenir rapidement, en fait, dans la vie d'un aidant ?
Alors, tout dépend du contexte, des circonstances dans lesquelles on est et dans lesquelles arrive la relation d'aide, évidemment. La plupart du temps, c'est quand même assez progressif parce qu'on s'installe dans la relation d'aide progressivement. Donc, c'est dans le long terme que ça survient. Voilà, ça peut s'installer parfois plus rapidement. C'est vrai, s'il y a des changements liés à l'apparition de la maladie qui vont arriver de façon plus soudaine, plus rapide. Et à ce moment-là, c'est parce que ça ne va pas laisser de temps d'adaptation suffisamment, on n'a pas suffisamment de temps pour s'adapter et pour faire face. Il y a ce diagnostic qui peut arriver brutalement et auquel il faut faire face. Mais après, je pensais plus à la soudaineté des troubles qui peuvent arriver. Par exemple, si la personne est hospitalisée ou qu'il y a quelque chose qui survient et qui va changer brutalement le quotidien. Donc là, non seulement il y a le diagnostic qui arrive, mais je vais devoir aussi m'adapter tout de suite dans la relation d'aide, à être très présent. Vous voyez, l'aide s'est pas installée progressivement. Et donc cette capacité d'adaptation, d'acceptation du changement, ce qu'on appelle la flexibilité mentale, elle va être essentielle parce que ses répercussions dans la relation d'aide vont être multiples. L'aide, en fait, en s'immisçant dans la relation, va bouleverser les règles, les points de repère habituels. C'est tout un jeu relationnel qui change, en fait. Notamment, il peut y avoir un rapport de force qui se met en place parce que la relation d'aide, c'est avant tout une relation de dépendance où il peut y avoir un sentiment de dévalorisation, d'inégalité qui se met en place et qui peut créer du conflit. Par exemple, la personne aidée qui se sent humiliée, rabaissée, ou bien la personne aidante qui se sent, elle, dévalorisée parce qu'il n'y a pas la gratitude en retour. Il peut y avoir même des reproches sur l'aide qu'on apporte. Donc tout ça, vous voyez, dans le long terme, de l'accompagnement peut amener progressivement un effacement de soi, c'est-à-dire on ne s'écoute pas, on se rabaisse, qui peut se mettre en place de manière insidieuse. Dans l'épuisement, mathématiquement, vous voyez, le fait de donner beaucoup et d'avoir peu de recharge en retour, évidemment, ça épuise les réserves. C'est comme une faillite énergétique. Je reçois pas autant que je donne. Et plus on s'occupe de l'autre, moins on s'occupe de soi. Donc, ça va être au détriment de tout ce qui va recharger mes réserves énergétiques et tout ce qui va nourrir le sentiment d'être moi, mes désirs, mes envies, mes besoins, mes activités personnelles, voyez, le fait de plus aller à son cours de yoga, à son cours de chant, ne plus prendre de temps pour soi, pour voir ses amis. Voilà, tout ça, je rentre de plus en plus dans la vie et les besoins de l'autre que j'aime et que j'aide, et je m'efface. En plus, le fait de ne pas s'écouter, de ne pas tenir compte de soi, je ne vais pas tenir compte de ma fatigue, il faut que je résiste, que je tienne le coup, voilà. Tout ça contribue à cet effacement de soi, surtout aussi si, en plus, je prends d'autres casquettes, que je me retrouve à avoir un rôle d'être soignante, de gérer les soins, d'être un peu la ménagère, voilà. Je perds aussi ma place en tant que fille, en tant qu'épouse, pour être de plus en plus dans ces rôles-là.
On s'oublie quand on est aidant.
On peut s'oublier, exactement. C'est ça le problème.
On parle d'épuisement psychologique, mais aussi émotionnel. Là, il y a une émotion en particulier qui est un véritable sujet, c'est la culpabilité, qui survient en plus de ça différent à un moment de la maladie du proche. Et on parle aussi d'un cercle vicieux de la culpabilité. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous expliquer, voilà, quand on parle d'épuisement, comment la culpabilité y participe ?
Ah, alors la culpabilité, alors là, c'est une charge émotionnelle très lourde. C'est vrai qu'elle y participe beaucoup et c'est pour ça que c'est important de la comprendre. En fait, il y a de la culpabilité parce qu'il y a un lien d'amour, un lien d'attachement. C'est important de comprendre ça et que dans toute relation d'amour, il y a de l'ambivalence, c'est-à-dire du bon, du mauvais, de l'amour et de la haine, hein, même si le terme de haine est un peu fort. Mais il y a des moments où on ne supporte plus les gens qu'on aime et c'est normal. Dans nos relations de tous les jours, ça s'équilibre, on peut rééquilibrer ça. Mais là, dans la relation d'aide, hein, il va y avoir un déséquilibre avec une montée de tout ce qui peut générer de l'agressivité envers notre proche parce que il est plus en capacité de reconnaître tout ce qu'on fait pour lui. Parfois, il ne nous reconnaît même plus. Parfois, il s'en prend à nous, mais aussi parce que peut-être que je vais renoncer à des choses que j'aime ou que j'aurais envie de faire. Enfin, voilà. Même si c'est pas de sa faute, je peux lui en vouloir pour tout ce qu'il me fait vivre. Tout ça, ça peut générer une culpabilité inconsciente parce qu'en général, on essaye de faire en sorte de pas y penser, parce que comme il est malade, je peux pas lui en vouloir, j'ai pas le droit. Donc ça va être une culpabilité de ressentir tout ça, inconsciente, qui peut s'ajouter à la culpabilité consciente, évidemment, hein, si je me suis énervée contre lui, par exemple, voilà. Et la spirale qui va se mettre en place, c'est que finalement, sans m'en rendre compte, pour apaiser ma culpabilité, je vais avoir tendance à en faire plus. Je vais avoir tendance à en rajouter, à alourdir encore un peu plus la charge, par exemple, voilà, si je me suis énervée contre lui, je suis partie en claquant la porte, par exemple, eh bien, le lendemain, je vais peut-être rester un petit peu plus ou prendre du temps pour l'emmener faire une sortie en me disant, voilà, je vais faire ça en plus pour lui, lui apporter un temps de qualité. Mais en fait, c'est pas forcément ce dont lui avait vraiment besoin, ce dont il avait vraiment envie. Et finalement, je vais mettre en place un certain nombre de choses pour m'apaiser moi et pas forcément en fonction de ses besoins à lui. Et en fait, ça peut me séparer, vous voyez, progressivement de lui. Ça fait comme un fossé, une inadéquation de ce que je vais proposer et qui finalement, au bout du compte, va augmenter le sentiment d'incompétence parce que ça ne marche pas toujours, parce que lui ne va pas forcément bien réagir.
Ça va ajouter au mal-être et finalement à l'épuisement.
C'est ça, ça contribue, ça alourdit.
Alors Maïté Fontaine, on a parlé d'épuisement à la fois physique, émotionnel, mental et psychologique. Il faut donc être vigilant sur ces différents éléments afin de les prévenir. Je vais vous laisser le mot de la fin, pas forcément un message de fin d'ailleurs, mais de conseil, d'ouverture on va dire. Quel message vous souhaiteriez passer à nos auditeurs ?
Je dirais que en fait, plus vous vous investissez dans la relation d'aide à votre proche, plus vous êtes à risque de vous y perdre en quelque sorte. Donc oui, il faut être vigilant. Ce qui est compliqué, c'est que le propre de l'épuisement, lorsqu'il est là, c'est qu'on n'est plus en état de s'en rendre compte. Donc il va être essentiel de comprendre ce processus qui peut vous absorber et surtout qui permet plus de s'ajuster au mieux aux besoins de son proche, ce qui met en souffrance les dents et les dés. Donc la prévention va être essentielle très tôt, avant même tout signe de physique, en anticipant donc sur ces différents secteurs, psychologique, mental, émotionnel et physique.
Et on vous retrouve hein, d'ailleurs pour parler de prévention, Maïté Fontaine, dans un épisode complémentaire. Donc j'invite hein, bien sûr nos auditeurs à aller sur France Alzheimer la radio pour écouter cet épisode où vous allez nous donner beaucoup de conseils pour détecter les signes de l'épuisement. Donc merci beaucoup et merci pour vos éclairages. Je vous dis à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et en attendant de nous retrouver pour un prochain épisode, toute l'équipe de la radio vous souhaite une très belle journée.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.